présente, je suis Pascal Brocolicchi et je suis plasticien. J'utilise le son pour une grosse partie de mes recherches et puis je suis aussi enseignant à la Villa Arson en son avec Jérôme Joie. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un projet dont l'étape finale s'est déroulée cet été et s'est achevée au mois d'octobre et qui a commencé il y a 4 ans en arrière. Qui a commencé au départ à la suite d'un voyage au Niger. C'était à l'issue d'une méharée, d'une traversée qui avait pris un temps plus ou moins long, à peu près un voyage d'à peu près 4000 km dans le Sahel et qui m'avait permis de traverser jusqu'à la frontière libyenne toute une région de la planète qui est pas tout à fait cartographiée. Et le projet de ce voyage, parmi d'autres que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'était de pouvoir se déplacer dans un périmètre relativement vaste où les repères étaient quasiment inexistants. Et puis, à la suite de ce voyage, pendant lequel j'ai fait un travail de topographe, de relevé de points sonores dans une zone désertique où, en apparence, les sons ne sont pas très riches, je dis bien en apparence, de retour en France, j'ai été invité au CAPC à Bordeaux pour réfléchir sur un projet qui au départ n'avait pas véritablement de forme, mais qui très rapidement m'a permis de comprendre qu'il y avait des similitudes assez grandes entre le voyage que je venais de faire, cette période que j'avais consacrée à ce travail de topographie, et puis aussi cet espace dans lequel la nef, pour ceux qui la connaissent, du CAPC, cet espace qui, lorsque je suis allé le voir au terme de ce voyage, était entièrement vide, il n'y avait pas d'exposition. Et le bâti, la construction, l'architecture, se présentait d'une manière qui était assez nette, qui était assez impressionnante. Il y avait cette espèce de verticalité, une espèce de grande verticalité qui produisait une sorte de flux depuis le sol jusqu'aux hauteurs du bâtiment. Et puis, vous allez me dire, quel rapport avec le désert? J'avais fait toute une série dans le désert, j'avais fait toute une série de prises de son, loin, très très loin dans le Ténéré, où il y avait... à des zones très précises, en des points très précis, ce qu'on appelle des puits artésiens. Ce sont des espèces de puits creusés à même le sable et qui descendent à parfois une cinquantaine de mètres de profondeur. Et lorsque j'avais fait ces captures de son autour de ces puits-là, il y avait des sortes de résurgences sonores qui étaient assez impressionnantes. Et qui donnait cette impression acoustique que les sons venaient en fait du fond et pas du dessus. En fait, c'était exactement l'inverse qui se produisait, c'est que c'était les sons qui venaient de l'extérieur, ceux que l'on produisait nous, qui s'engouffraient à l'intérieur de ce puits artésien et qui, par des effets d'ondes planes, ressurgissaient d'une manière assez puissante vers l'extérieur. Et dans la nef, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la forme de ce lieu, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait des sortes de ressemblances acoustiques, des sortes de similarités acoustiques qui produisaient justement ces effets de verticalité. Ensuite, est arrivé très rapidement le projet sur lequel j'allais travailler pendant 2 ans, autour duquel justement j'ai continué à faire ce travail de topographie, de relevé de points, toujours avec un appareillage relativement simple, un appareillage de prise de son relativement simple. J'utilisais, comme pour le désert, j'utilisais des, ce qu'on appelle des capteurs VLF. Ce sont des, plus usuellement on appelle ça des radiotélescopes. Donc pour saisir toute une partie, toute une palette de fréquences électromagnétiques qui sont bien en dessous du spectre de l'audible. Il faut imaginer que là, on est dans des ondes radio-sources qui ne sont absolument pas écoutables avec les oreilles. Donc ces radiotélescopes, c'était des radiotélescopes relativement simples. C'était des antennes pas très encombrantes. J'utilisais aussi un capteur sismique qu'on appelle le plus précisément un capteur ULF. Donc pour descendre encore un peu plus dans le spectre des ondes électromagnétiques basses, qui tournent aux alentours des 1 kHz, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc là, on descend encore nettement en dessous du spectre. Voici Christophe qui... pour descendre nettement en dessous du spectre. Ensuite, j'utilisais des transducteurs piézoélectriques. Bref, petit à petit, je constituais comme ça, au fur et à mesure que le projet avançait, à nouveau une espèce de couche par couche, strate par strate, pardon, une espèce de carte sonore de cet espace. Alors cet espace entièrement vide, cet espace d'exposition entièrement vide, il faut imaginer qu'il fait 27 000 mètres cubes d'air. Je vais vous en montrer une image. Il fait 27 000 mètres cubes d'air. Donc c'est une énorme enveloppe. Le bâti est une énorme enveloppe. Et si on s'intéresse un peu ce mode de construction, ce mode de structure, en fait, c'est un énorme résonateur. Solide, sous lequel je me suis aperçu en étudiant les plans qu'il y avait de grands réservoirs de décantation d'eau qui étaient à leur tour des espèces de poches de pression, des espèces de grosses poches de pression qui étaient sous les butées que vous voyez là des arches. Donc vous avez une grande colonne vertébrale au centre à l'aplomb de laquelle il y a deux séries d'arches qui s'étendent à peu près à 14 mètres de haut sur une vingtaine de mètres de large et qui viennent se jeter sur les côtés pour former des espèces de collatéraux assez sombres, d'ailleurs assez écrasés sur les côtés, dont on peut faire le tour complet de la nef. Alors, pour ceux qui la connaissent bien, ce lieu d'exposition est un peu particulier et est à la fois assez difficile à exploiter, puisque, effectivement, il y a cette espèce de forte présence du lieu, de la construction, mais il y a aussi, toujours sur le plan acoustique, une quantité invraisemblable de phénomènes qui sont assez autonomes, assez variables, assez erratiques, et qui constituent la plupart du temps tout ce qui représente les défauts acoustiques, les choses que l'on veut éviter, que l'on veut contourner lorsqu'on veut faire du son. Et moi, précisément, ce sont ces choses-là qui m'intéressent essentiellement. Et lorsque, au fur et à mesure que je travaillais sur le projet, je faisais ce travail de topographie, de prise de notes, j'ai pu m'apercevoir en les fixant, en les plaçant de manière très précise avec des moyens de spatialisation 3D, qu'il y avait dans les coins, dans les recoins, au centre, un peu partout, qu'il y avait ces phénomènes-là d'ondes stationnaires, d'ondes planes qui se rejouaient de manière assez significative. Mon idée était en fait de les révéler les unes après les autres et de les repérer. Et pendant 2 ans, à raison d'un voyage à peu près tous les 2-3 mois, je me suis rendu sur le lieu, dans toutes les situations possibles imaginables, avec ces appareillages-là, pour justement pouvoir faire la quasi-totalité du parcours. Et puis la première chose que j'ai proposée lorsqu'on m'a demandé la forme qu'allait prendre ce projet-là, la première chose que j'ai proposée, c'était de vider complètement ce lieu et en apparence, de l'interdire au public, c'est-à-dire d'empêcher le public de le traverser. Chose qui m'a été refusée immédiatement pour des raisons très... d'ordre très, très politique par rapport à l'idée du musée. C'est très délicat d'interdire le public de rentrer dans un musée. D'autant plus, la nef l'a condamné définitivement pendant toute la durée de l'exposition au public. C'était quelque chose qui était relativement délicat. Mais avec Maurice Fréchuret, on a entamé une discussion au long cours, puisque de toute façon, le projet s'est étalé sur 2 ans. À moi de lui expliquer, de lui faire comprendre que, précisément, je ne voulais pas, je dis bien en apparence, je voulais interdire le public à l'accès de cette nef, mais ce que je souhaitais faire, c'était indiquer au public, au spectateur, à l'auditeur, lui indiquer une multitude de parcours, et non de parcours fléchés, justement, mais une multitude de parcours potentiels, de parcours d'écoute, à partir desquels il pourrait se rendre compte que la chose qui est révélée dans le projet que je proposais, dans l'installation sonore, puisqu'on peut l'appeler ainsi, dans l'installation sonore que je proposais, c'était le lieu qui se révélait, qui se mettait en résonance sur lui-même, puisque c'était ce travail de marquage que je faisais. Les sons que j'allais proposer d'écouter au public seraient ces sons-là, qui seraient injectés sur eux-mêmes dans le lieu. Donc justement, ce matin, lorsque tu évoquais le système, lorsqu'il se met en feedback sur lui-même, là, c'est ce qui se passait précisément. C'est qu'au terme de ce projet de recherche, c'est le lieu qui se mettrait en boucle sur lui-même. À cette époque-là, à ce moment-là, la forme définitive du projet, la forme physique du projet n'avait pas véritablement de traces, puisque j'en étais au stade d'enregistrer les sons et de faire ce travail de stockage et de classement des sons. Dire qu'ils étaient classés, par exemple, par fréquence, par famille de fréquences, donc ceux qui appartenaient aux ondes électromagnétiques, ceux qui appartenaient aux ondes audibles, aux ondes acoustiques. Donc pour cela, je l'ai capté avec une parabole, ou les outils, les matériels classiques de captation. Les ondes radio, elles, je les captais avec des récepteurs ondes courtes. Et les ondes sismiques, celles qui étaient en dessous du spectre, le plus en dessous, faisaient partie de cette troisième famille-là. Et à partir de ça, petit à petit, en avançant avec les moteurs de spatialisation dans mes recherches purement acoustiques, purement physiques, le projet d'écoute, le dispositif d'écoute prenait la forme qui est celle-ci. C'est que puisque j'avais décidé d'interdire a priori le public à traverser cette nef-là, ce que j'ai proposé de faire, c'était de se retrouver devant une palissade que vous voyez ici, dans cette zone un peu claire, au rez-de-chaussée, devant une palissade qui était une sorte de, on peut appeler ça, de pavillon. Moi, je l'avais appelé abasson. Vous savez, ce sont, lorsque vous êtes sur les pistes d'atterrissage sur les aéroports, vous avez ces espèces de panneaux inclinés comme ça qui renvoient les ondes sonores des avions vers les hauteurs de l'aéroport, en hauteur, et qui permettent d'isoler comme ça au second plan, à l'arrière-plan, qui permettent d'isoler les usagers de l'aéroport. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette chose-là, c'est que justement, il y avait cette idée du second plan, de la chose qui était interdite a priori, à laquelle le public n'était pas a priori invité. Et donc, c'était une ceinture. Lorsqu'on pouvait faire le tour de la nef, par les collatéraux, tout autour, on se retrouvait toujours face à une ceinture qui bouclait complètement l'espace. Cette ceinture-là était inclinée à 25 degrés. Alors, c'est assez précis parce que 25 degrés, c'est ce qui permettait de faire remonter justement les ondes sonores vers une deuxième partie de la nef que l'on va voir tout à l'heure, qui s'appelle les coursives, qui sont à 7 mètres de haut et depuis lesquelles on peut considérer la totalité de l'exposition en vue, en contre-plongée, pas en vue zénitale, mais en contre-plongée sur la quasi-totalité de la nef. C'est une ceinture, en fait. Et donc, cet abasson, lui, très vite, il a pris cette forme, la forme suivante. Voilà, qu'on voit ici sur le rendu du moteur. C'est une ceinture qui fait à peu près 480 mètres carrés. Et c'est du PVC qui est tendu sur une structure autoporteuse métallique. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc, il y a la particularité de renvoyer les ondes vers la hauteur et de créer, lorsqu'on est au rez-de-chaussée de la nef, cette espèce de rumeur de quelque chose qui est en train de se jouer là où on n'a pas accès, de l'autre côté de cette palissade. À l'intérieur de la palissade, à l'aplomb de la colonne vertébrale de la structure de la nef, sous les arches, j'avais idée donc de mettre en place tout le dispositif d'émission des sons que j'avais capté pendant cette longue période. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore l'idée tout à fait de la manière dont j'allais le diffuser, mais mon projet, c'était de mettre en œuvre un certain nombre de réflecteurs, que vous voyez à peu près ici pour l'instant, mal présentés, vous le verrez mieux tout à l'heure, un certain nombre de réflecteurs qui dirigeaient les ondes sonores, et toujours pareil, dans l'idée que certaines fréquences étaient accessibles et d'autres non, les dirigeaient vers les hauteurs de la nef, tout autour, là, la coursive, là, on voit la couronne de projecteurs de lumière qui sont tout autour. Alors, quand je dis que certaines fréquences sont audibles et d'autres non, tout se joue à distance dans ce projet-là. La quasi-totalité de la démarche est justement cette espèce de mise à distance, à la fois du public et à la fois aussi des sons, puisque on se tenait généralement à une vingtaine de mètres au plus près du dispositif, jamais plus près. Donc, d'un point de vue visuel, c'est assez important, c'est que lorsqu'on montait au premier étage des coursives, on voyait à peu près ceci, cette zone-là qui se dévoilait entièrement. Et là, on avait bel et bien conscience cette fois-ci que la totalité du dispositif se jouait au centre, la totalité de la diffusion se jouait au centre, mais à cette distance-là, on avait le sentiment que certaines fréquences ne parvenaient pas jusqu'à nous. Et c'était plus ou moins à ces périodes sur lesquelles je jouais assez souvent, c'était ces fameuses longues périodes de silence occupé, pendant lesquelles des sons parvenaient et d'autres restaient un peu en suspens ou en tout cas évoquaient quelque chose qui pouvait être une onde sonore, une rumeur, mais qui était toujours dans l'entre-deux. Donc c'était un peu un chassé-croisé entre l'attente qu'on avait de l'écoute, cette espèce de mise en disposition de mise en attente de l'écoute, et ces sons qui parvenaient d'une manière assez flagrante et d'autres qui parvenaient pas ou peu ou de manière un peu subjective. Tout était toujours joué comme ça sur cette espèce de limite de cassure jouée par la distance. Donc dans le projet final qu'on a construit au mois de mai, au mois d'avril, avant l'exposition, voilà, donc au rez-de-chaussée, lorsqu'on rentre dans le lieu, il y avait donc cette fameuse ceinture dont je parle, et toute la partie noire, c'est la structure métallique, donc autoporteuse, qui, elle, en fait, était en suspension. Elle était légèrement relevée à 15 cm du sol. Il y avait cet espace de vide, cette espèce de trouée comme ça qui était entre le sol et le dispositif, qui, elle, concourait justement à produire ce jeu de rumeurs, parce que à la fois les sons, évidemment, passaient à travers, mais en plus de ça, ce jeu avec la lumière assez fort produisait l'idée qu'on n'était pas invité à quelque chose qui se jouait derrière derrière la basson, derrière la palissade, mais dont on voyait les espèces de reflets de lumière. Donc là, pour donner un ordre d'idée, la distance là était de 42 mètres, d'ici jusqu'à là-bas au fond. Et dans l'autre sens, sur la largeur, c'était à peu près une vingtaine de mètres à peu près. Là, la hauteur, c'est 5 mètres du sol jusqu'ici, jusqu'au point. Alors dans le projet physique, qui répondait justement à ces recherches acoustiques, l'inclinaison à 25 degrés arrivait pratiquement au pied des coursives qui se trouvent là. Et la pente du toit qu'on a ici à 13 mètres de haut était inclinée elle aussi à 25 degrés. Donc en fait, il y avait une espèce de jeu de miroir de réflecteur entre la structure, le bâti et l'installation. Donc voilà, j'allais y venir. Attends, je vais placer. Voilà, donc ici, sur la partie intérieure du dispositif, il y avait donc trois groupes de réflecteurs. Et au centre, il y avait trois évents, avec des caissons de basse. Donc chaque groupe de réflecteurs avait deux satellites de chaque côté qui se faisaient face, 2 et 2, 4. Ça constituait un premier groupe. Et au centre, un caisson de basse avec un évent. Alors, l'idée était au bout de ces deux années de collecte de sons, j'ai commencé à m'apercevoir que certains sons, puisqu'ils n'étaient pas, certaines fréquences, puisqu'elles n'étaient pas audibles, j'arriverais jamais à les restituer de toute façon dans l'espace tel que je les avais captés, puisque la plupart du temps, pour les capter avec un capteur ULF ou un capteur sismique ou un capteur VLF, on utilise un spectrographe pour pouvoir les lire. On est nettement en dessous du seuil de l'audible, donc il faut soit utiliser un spectrographe pour les voir sur des courbes, soit utiliser des fréquences porteuses, des sons porteurs, qui eux vont interagir avec ces fréquences-là. Donc à ce moment-là, j'ai utilisé les fréquences que j'avais captées, qui étaient audibles, que je croisais, que je venais superposer avec celles qui étaient inaudibles, pour pouvoir justement créer des trames de sons que je constituais par groupe de plus en plus restreint, de plus en plus limité. Donc au terme de ces recherches-là, je suis arrivé à peu près à 23 groupes de sons qui constituaient à peu près dans le temps 23 heures de sons. Et la grosse difficulté, c'était de se dire, est-ce que j'allais faire le tri, le choix de les présenter toutes ou au contraire d'en sélectionner certaines par rapport au projet. Et le choix était vite fait. L'intérêt, c'était véritablement de toutes les présenter, puisque de toute façon, c'était le lieu sur lui-même. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que, puisque j'avais séparé sur les bandes de fréquence, puisque j'avais séparé certains sons plutôt que d'autres, par famille de 23 groupes, j'avais décidé qu'en fait, au centre du dispositif, tout ce qui constituait les ondes de basse fréquence serait diffusé par les trois évents qu'on voit là, et tout ce qui était dans les ondes de moyenne et haute fréquence serait distribué par les satellites, les 12 satellites qu'on voit là. Ils sont autonomes, en fait, c'est-à-dire que les trois groupes sont complètement séparés. Donc, au final, on avait un dispositif qui était relativement simple, c'est-à-dire que j'avais demandé à ce qu'on mette en place ces trois groupes-là, autonomes, avec tout simplement, à partir d'un ordinateur qui tournait en permanence pendant toute la durée de l'exposition, qui diffusait d'une manière très précise sur chacun des groupes les familles que j'avais constituées au départ. Ce qui signifie qu'en fait, lorsque le visiteur commençait à entamer le parcours dans les coursives, ce parcours circulaire autour du dispositif, il avait à la fois, pratiquement en réponse spatio-temporelle, il avait à la fois jamais les mêmes sons suivant où il se trouvait, mais en plus de ça, les groupes de sons glissaient les uns par rapport aux autres. Ça dépendait des périodes. Et puis, puisque je m'étais basé sur un repère très simple, c'est-à-dire celui du silence, le silence de la nef, lorsqu'il y en avait, j'ai imaginé que le temps que l'on pouvait mettre pour traverser la nef, puisque toi tu l'as visité, était en moyenne de l'ordre de 2 minutes à peu près. Et je me suis appuyé tout simplement sur ce repère-là. 2 minutes de silence est un maximum, à partir duquel on pouvait au moins avoir traversé 3 groupes de dispositifs de diffusion. Donc le schéma était très simple. Là où il devenait beaucoup plus compliqué, c'est que je me suis aperçu au fil des recherches que dans cette architecture-là, dans cet espace-là, le silence n'existait jamais, et surtout pas au moment où on l'attendait. Je me suis aperçu, par exemple, que lorsque le lieu était entièrement vide de personnel, entièrement vide d'exposition et la nuit, pour avoir fait des captures de son pendant la nuit, eh bien, c'était précisément les moments où le CAPC, comme une espèce d'énorme enveloppe, comme un espèce d'énorme résonateur, était pratiquement le plus brillant à ces moments-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il venait s'engouffrer là-dedans toutes les sources sonores possibles, imaginables, tout le drone urbain qui était à l'extérieur du CAPC, qui était dans le quartier, pénétrait à l'intérieur de cette cloche sous vide, de cette enveloppe-là, et occuper la totalité de l'espace. Souvenez-vous ce que je disais au début de mon explication, c'est ces fameux puits artésiens à partir desquels l'idée, le projet de départ avait démarré. Je retrouvais en fait ces phénomènes de résurgence sonore. Alors, j'expliquais que sous le sol de la nef, c'est-à-dire là, toute cette partie blanche, sous le sol de la nef, il y avait en fait des grands bassins de décantation qui permettaient de drainer toutes les eaux qui passaient l'entrepôt pour éviter justement qu'ils se détériorent au fil des temps. Et donc, avec mes capteurs sismiques, j'ai pu véritablement sonder et faire une sorte de radiographie du lieu de manière très précise dans des périodes différentes et m'apercevoir que certaines fréquences, notamment très basses, lorsqu'elles étaient diffusées vers les hauteurs de la nef, rentraient en résonance avec avec les poches d'eau qui étaient en dessous. Donc je me suis amusé comme ça à jouer sur ces espèces d'étages de diffusion qui étaient à la fois, je pense, quasi imperceptibles pour l'auditeur qui connaissait pas, de toute façon rien n'était expliqué dans l'exposition, mais en tout cas qui connaissait pas cette configuration un peu spéciale du bâtiment, mais qui était véritablement là, qui était physique, c'est-à-dire que lorsqu'on traversait certaines fréquences, ces jeux comme ça de superposition de résonance produisaient des phénomènes qui étaient parfois assez étonnants. D'ailleurs, j'en étais le premier spectateur, puisqu'il y avait des ondes stationnaires que j'imaginais même pas au départ et qui se produisaient pendant l'exposition de manière assez étonnante. Donc pendant 4 mois et demi d'exposition, moi je n'étais pas évidemment sur le lieu, j'étais même jamais là. Ce que je faisais, c'était d'un moyen très simple, à distance depuis chez moi, je gérais justement ces fameux 23 fichiers, ces fameuses 23 familles, groupes de sons. Je les gérais de manière quasi quotidienne sur l'ordinateur qui était dans l'exposition. Donc, il n'y a jamais eu pratiquement la même proposition sonore pendant toute la durée de l'exposition, à la base de quelque chose qui était déjà posé dans l'ordinateur, qui était déjà sur un support fixe et qui avait été travaillé au préalable. Donc, cette idée comme ça de produire quelque chose en temps réel, là, c'était pas du tout le cas. C'était simplement un moyen de diffusion qui me permettait à distance de faire des propositions différentes au fur et à mesure que l'exposition avançait. Donc ici, d'un peu plus près, on voit les trois groupes de réflecteurs. Alors la technique de construction est extrêmement simple, puisque c'était tout simplement des berceaux métalliques qui avaient été construits, sur lesquels on est venu fixer des plaques de médium très denses et très tendues, collées très tendues. Et les pieds qu'on voit ici, c'était des pieds qui étaient sur cylindre bloc de caoutchouc pour éviter justement les jeux de résonance intempestif. Mis à part ça, la technique du dispositif était extrêmement simple. Les voiles de PVC que vous voyez ici tendues, c'était du PVC qu'on utilise dans l'industrie et en acoustique aussi. pour pouvoir, d'ailleurs il y en a de toutes sortes, pour pouvoir soit absorber les sons, donc ce sont des matériaux, des revêtements mats, soit au contraire pouvoir réverbérer les sons, ce sont des matériaux plus brillants. Donc là justement on avait utilisé des matériaux brillants pour pouvoir renvoyer les ondes vers les hauteurs de la nef. Alors, pour l'éclairage du dispositif, j'avais imaginé d'utiliser un éclairage extrêmement neutre, froid. Cela dit, ici, il était très puissant, puisqu'on était à distance, on était à peu près une vingtaine de mètres, le public était à peu près à une vingtaine de mètres du dispositif. Là, il fallait en quelque sorte que la puissance qui était projetée, la puissance de lumière qui était projetée sur le dispositif, puisqu'elle n'était pas directe en direction du public, je veux dire, qu'elle était secondaire et que c'était le dispositif qui renvoyait vers le public la lumière, à ce moment-là, il a fallu utiliser une quantité assez impressionnante de lumière, chose qu'on n'avait pas du tout prévue au départ. Donc pour donner un ordre d'idée, on a utilisé 40 projecteurs de lumière iodure qui se trouvent quand même très haut. Là, ils étaient à 16 mètres de haut. Et ce qui m'intéressait là-dedans, on a travaillé avec un ingénieur lumière pour ça. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que la puissance de lumière qui était utilisée, tout comme la puissance de son qui était utilisée, en fait, l'était, mais pas de manière flagrante et directe. Elles étaient toujours de manière secondaire. Et j'ai essayé de travailler sur ce jeu de rumeurs, justement, du dispositif. Et la lumière, c'était le cas. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression d'être en face de quelque chose de très puissant, mais auquel on n'était pas confronté ni véritablement invité. Donc, à la fois, le son qui sortait des structures-là avait une forte puissance, mais le temps que sa course parvienne jusqu'au spectateur, jusqu'au visiteur, crée une espèce de relatif feedback et de choses, je pense, pas véritablement agressives et pas directes, en tout cas. Donc, c'était toujours cette espèce de souci de renvoi indirect, de réflexion sur les structures.
Comment tu qualifies le rendu sonore? J'ai vu l'appellation, c'est clair, c'est entendu. Et c'est vrai que c'est surpris, je m'attendais surtout à des choses assez plates, en fait, des sortes d'atmosphère sonore.
Alors tout simplement, ouais. Alors tout simplement, le CAPC la plupart du temps était habité. Il y a un restaurant au-dessus, il y a une soixantaine de personnes qui y travaillent, un public qui vient visiter les expositions en permanence. Donc le CAPC est habité. Et puis dans toute la partie des sons que j'enregistrais avec des moyens classiques, avec des micros classiques, ces choses-là, en fait, c'était des manifestations sonores qui étaient tout ce qui est de plus quotidienne et de plus réel. D'ailleurs, précisément, ce sont ces segments de sons qui laissaient penser aux spectateurs, aux auditeurs, que c'était des moments de silence, des moments où la pièce ne fonctionnait pas. Et précisément, en fait, elle fonctionnait. Elle était simplement en train de rejouer quelques temps après, puisque je les avais enregistrés au préalable, quelques temps après, la vie, tout ce qu'il y a de plus quotidienne du lieu, avec des bruits de caisses enregistreuses, des bruits de bouteilles du restaurant du dessus. Donc c'est vrai que lorsqu'on a un dispositif tel que celui-ci, avec une mise en œuvre énorme, puisque elle est, je dois quand même l'avouer, elle était spectaculaire dans son volume, puisqu'elle faisait, je disais tout à l'heure, 850 mètres carrés, ça occupe une espèce d'enveloppe blanche comme celle-là, ça occupe. Mais dans les moments, on ne s'attend pas du tout, dans les moments où elle diffuse du son, à ce qu'elle diffuse du son d'une profonde banalité, en quelque sorte. Donc moi, j'ai toujours joué dans ces distances de retranchement, dans ces espèces Oui, de mise à distance du public lorsqu'il était véritablement confronté à lui-même. Après, à côté de ça, il y avait, tu as raison de le dire, il y avait des parties de son qui étaient typiquement concrètes, puisqu'elles étaient toujours au départ des captures de son que j'avais faites sur le lieu, mais qui par contre étaient, on va en écouter un extrait tout à l'heure, justement j'ai choisi quelque chose qui n'est pas du son documentaire du lieu, mais qui est du son pris dans les structures du bâtiment, dans les craquements du bâtiment. Et donc ces matières sonores-là, une fois retraitées avec certains moyens, deviennent pratiquement des entités qui sont loin, très très loin de l'idée sonore qu'on pourrait se faire d'un lieu comme celui-là. Je pense qu'il y avait, à un certain moment, quand j'ai capté des ondes radio sources, des ondes électromagnétiques, je dirais pratiquement que je les ai captées dans ce lieu, là ou un autre, on est pratiquement dans la même famille, dans la même couleur sonore, le même grain sonore qu'on connaît très bien d'ailleurs, des ondes radio, on connaît tous ça, on a tous déjà entendu ça, donc ça fait partie d'un imaginaire assez connu qui a peut-être pu te faire penser que ça venait d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y avait dans le choix de distribution des sons pendant l'exposition, il n'y avait jamais, c'était relativement arbitraire d'ailleurs, mais il n'y avait jamais de moment précis où les familles de sons étaient distinctes. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien y avoir par moment, je pouvais très bien superposer des sons tout à fait reconnaissables avec des sons qui étaient complètement concrets. Ça c'était tout à fait possible. Alors non, c'était pas en direct justement. J'avais proposé un protocole pour les personnes qui gardaient le lieu. C'est que je m'interdisais à modifier l'ordre de passage des groupes de sons pendant les moments de visite. Donc les moments où je travaillais sur la pièce à distance, c'était des moments de fermeture. Donc c'était le matin ou la nuit. Mais pendant les visites d'exposition, la chose était bouclée et je n'intervenais pas. Il m'est arrivé par contre à distance d'aller écouter, non pas les appréciations des visiteurs, mais d'aller écouter lorsqu'il y avait quelques petits incidents techniques pour savoir si effectivement les groupes de satellites fonctionnaient ou si tout était en ordre. Mais mis à part ça, j'intervenais jamais quand le public était là. Et alors, lorsque je dis que le dispositif était au service de la pièce sonore, lorsque cette espèce de gros résonateur, de gros pavillon était au service de la pièce sonore, ce n'était pas un lieu où se créait l'événement en direct. Puisque pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Ces sons-là, je les avais enregistrés avant, de toute façon, pendant ces 2 années de travail. Les satellites sur le plan technique, c'était des banals satellites de la marque DNB, pour ne pas la citer. C'était un dispositif, tout ce qu'il y a de plus... j'allais dire de plus classique, c'est pas vrai, parce qu'on a, avec l'ingénieur son qui a participé au projet, on a écouté, avant de fabriquer cette forme finale, moi je l'ai conçu sur le fameux moteur de spatialisation. Mais avant d'arriver à cette forme finale-là, on a constitué pendant des périodes assez longues des prototypes sur lesquels on a travaillé et qu'on a pu tester à plusieurs reprises dans le lieu. Et à ce moment-là, moi, j'ai demandé à ce qu'on utilise différents types et différentes marques de moyens de diffusion. Et puis, on a choisi en fonction des sons que je voulais restituer, et surtout de la bande passante la plus large qui m'intéressait. On a choisi ce type-là, mais on en a utilisé d'autres aussi qui ne me convenaient plus à l'arrivée. tout en gardant, je dis bien cette chose importante, c'est que c'était un dispositif qui devait fonctionner toujours dans la distance, alors que la plupart des dispositifs sont prévus de manière très linéaire pour fonctionner face à un public, et là, ce n'était pas le cas, justement. Là, il fallait que ça occupe l'espace de manière assez insolite, sur le plan acoustique, je parle. D'ailleurs, c'est ce qui a occasionné de grandes discussions assez complexes avec l'ingénieur son, puisque moi, dans ma démarche plasticienne, j'avais pas du tout les mêmes repères, pas du tout les mêmes comportements avec le matériel que pouvait avoir un acousticien ou un, ou un ingénieur. Je vous propose d'écouter un extrait de la pièce. Alors, tout en se disant aussi que ce qu'on va écouter là, c'est évidemment, il faut bien se dire qu'on est complètement hors contexte là. Même à la limite, je ne devrais même pas le faire écouter presque. On est complètement hors contexte par rapport à la situation et à la géographie du dispositif. Et cette chose qui est complètement décontextualisée par rapport à son origine, c'est ce qui me gêne toujours d'ailleurs de pouvoir l'utiliser après. C'est la raison pour laquelle aussi, lorsqu'on décide à partir d'un projet, à partir d'une exposition comme celle-là, d'en faire une édition, j'ai toujours beaucoup de mal et je prends toujours beaucoup de précautions à produire un objet d'édition à partir de ces choses-là, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui ne pouvait fonctionner que dans ce lieu-là.
Thank you.
les sons qui étaient diffusés là-dedans, dans ce contexte-là, dans ce dispositif, étaient marqués par des temporalités très précises. C'était le début et la fermeture de chaque journée d'exposition. Je dis ça parce que dans ce lieu-là, d'une manière historique, il est très marqué par la présence, l'omniprésence d'une œuvre sonore, d'un soundwork précisément de Max Neuhaus, qui lui fonctionne en permanence depuis 1991, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, pour une exposition qui s'appelait Gas. Oui, c'est ça, Gas. Depuis 1991, ce dispositif-là qui se trouve dans les escaliers qui permettent de passer de la nef, du rez-de-chaussée de la nef jusqu'aux coursives, il fonctionne donc ce dispositif en permanence jour et nuit depuis le début de sa mise en service, de sa mise en œuvre. Et justement, la question s'est posée, puisque cette pièce-là fonctionne en permanence, est-ce que si interférence il y a, est-ce que les deux allaient pouvoir cohabiter de manière significative, sachant que dans les longues périodes d'émission de ma pièce qui sont extrêmement fortes, la pièce de Max Neuhaus allait complètement disparaître. Alors, il faut imaginer une chose, c'est que la pièce de Max Neuhaus est une pièce de rumeur, puisque la plupart de son travail est constitué sur ce mécanisme-là, ce mécanisme de la rumeur. C'est que la plupart du temps, on traverse, pour les gens qui en ont fait l'expérience, on traverse l'escalier qui est une voûte, comme ça, une sorte de tube assez bas. On traverse sans véritablement percevoir sa pièce. Si on n'est pas au courant, on peut très bien ne pas l'entendre, ne pas l'apercevoir. C'est une onde continue qui est diffusée sous les néons et donc qui utilise la voûte des escaliers pour créer une espèce de jeu d'onde plane à l'intérieur de l'escalier. Mais quelque chose de tellement ténu que si on passe rapidement, de toute façon, on a peu de chances de pouvoir la saisir. Et moi, je souhaitais absolument à ce que cette pièce continue de fonctionner pendant mon exposition. À plusieurs titres, c'est que ça semblait complètement aberrant de devoir arrêter un système qui, de toute façon, était voué à fonctionner le plus longtemps possible. Et puis surtout, les pièces de Max Neuhaus sont des pièces qui interrogent essentiellement la durée de l'écoute, c'est-à-dire le temps qu'on va consacrer à saisir cette rumeur et en dessaisir pour partir. Et justement, dans le projet moi, que j'ai proposé, qui lui, au contraire, est visuellement extrêmement présent, tonitruant, omniprésent, son temps de fonctionnement était relativement court finalement, puisqu'en fait il était branché et débranché pendant les périodes d'ouverture du musée et débranché juste après. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de prendre le contre-pied en fait de la proposition de Max Neuhaus et de consacrer un temps extrêmement long au travail de recherche et de construction de l'œuvre, et finalement un temps d'écoute et de diffusion extrêmement court par rapport à la mise en œuvre de ce projet-là. Et il y avait aussi dans cette idée que je proposais, cette espèce de travail de fouille que j'avais fait, l'idée que c'était en quelque sorte mettre en place un dispositif qui faisait la promesse de pouvoir fonctionner tout le temps, mais qui au fond n'avait pas véritablement la nécessité et l'intérêt. Et j'utilisais comme ça ces longues plages de silence occupées ou pas véritablement occupées, qui étaient entre deux toujours, qui étaient des espèces de leurres comme ça, de rumeurs, pour justement glisser petit à petit cette espèce d'échange, de conversation avec la pièce de Max Neuhaus. Et donc, puisque j'avais mes moyens de captation habituels, j'ai effectivement capté des sons de son installation, que j'ai à mon tour retravaillé pour pouvoir les distribuer dans le dispositif. Une espèce d'échange comme ça qui était assez souvent d'ailleurs un point d'appui pour pouvoir se déployer. Pourquoi ça? Parce que simplement, je me suis aperçu au fur et à mesure de mon travail d'investigation que Max Neuhaus avait choisi ses fréquences sonores d'une manière extrêmement redoutable, extrêmement intelligente. C'est que on peut faire cette expérience-là lorsqu'il y a peu de monde dans la nef. Vous parliez tout à l'heure d'ubiquité. Mais alors là, je crois qu'on a le plus beau des exemples d'ubiquité sonore, c'est que je dirais pratiquement dans la quasi-totalité du CAPC, de la nef, et des collatéraux. Sa pièce est là toujours et partout. C'est assez impressionnant, cette chose-là. C'est que les fréquences ont été travaillées avec une telle justesse que moi, j'ai pu m'en rendre compte avec les paraboles, lorsque je captais des sons avec les paraboles. C'est qu'en fait, ces fréquences-là, qui sont des fréquences continues d'ondes sinusoïdales, sont partout et tout le temps. Donc, au bout d'un moment, je me retrouvais, moi, dans mon travail, avec cette espèce de drone continu qui martelait comme ça, qui marquait complètement, de manière indélébile, la proposition que j'avais faite. Donc, d'où l'importance de ne surtout pas arrêter la pièce de Max Neuhaus pendant cette exposition. Donc, très certainement, dans ce que je vous ai fait écouter là, il y a cette trace-là, cette présence. Mon intervention a été relativement courte, puisque pour moi, c'est un projet qui est un peu derrière maintenant, puisqu'au moment où je l'ai montré, les choses étaient déjà fixées depuis longtemps, en quelque sorte. Donc, je reviens un peu sur des choses dont il a fallu que je me remémore, d'ailleurs, certains chiffres aussi, que j'avais un peu oubliés. C'est pas si loin derrière, hein, cela dit. Mais vous avez sans doute des questions sur ce... Le temps de l'exposition était pratiquement, c'était là cet été, mais c'était pratiquement pour moi terminé, achevé. Oui. Oui, donc c'est ce que j'expliquais au début de mon intervention. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, en pratiquant au fur et à mesure ce travail de fouille, je montais régulièrement sur le lieu, et à partir de tous les plans dont j'avais accès, j'ai reconstitué sur des logiciels de modélisation 3D, j'ai reconstitué entièrement la nef, le CAPC. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était ce calcul acoustique qui pouvait se faire, se jouer dans une enveloppe qui faisait 27 000 mètres cubes d'air. Lorsqu'elle est vide d'exposition, la nef fait ce volume-là. Et à partir de là, effectivement, la forme, l'orientation des abat-sons, des réflecteurs et des évents a été calculée en fonction de ces calculs-là de départ. Alors, c'est un travail que j'ai mené tout seul sur la quasi-totalité du projet. Sauf qu'à un moment donné, il s'est posé plusieurs questions d'ordre pratiquement architectural, puisque la structure autoporteuse de la basson, la ceinture qu'on voit tout autour, au début, pour des raisons techniques, elle n'avait pas cette forme-là. Ces espèces d'équerres noires qu'on voit comme ça, ces espèces d'équerres métalliques, c'était pas ça en fait. C'est un système, je vais pas rentrer dans les détails d'architecture et d'architecture structurelle, mais au départ, c'était une structure autoporteuse qui fonctionnait par tenségrité, c'est-à-dire que le voile de PVC se tenait sur lui-même par des tensions qui poussaient vers l'extérieur. Donc c'était des jeux de haubans, de câbles et de mâts, en quelque sorte. La seule chose qui nous a contraint de ne pas réaliser ce projet avec cette technique-là, c'est que le sol, lui, en fait, c'est pas du béton, c'est de la terre battue, du gravier, du tout venant, qui a été complètement compressé au fil des temps, mais qui est relativement meuble, en fait. On pouvait pas percer là-dedans, on pouvait pas se fixer là-dedans, c'était pas dur. Et il a fallu que j'imagine, à partir de ça, une structure qui se tient sur elle-même, sur son propre poids, en quelque sorte. Et donc, à ce moment-là, il a fallu qu'on fasse intervenir un certain nombre de spécialistes qui avaient pignon sur rue, qui pouvaient attester d'une certaine fiabilité du projet, pour toutes les raisons qu'on imagine, et celles de sécurité aussi. Et donc, on a fait appel aussi à un ingénieur, un acousticien, pour être certain que mes calculs étaient les bons. Cela dit, mes calculs, je ne cherchais pas à produire quelque chose de complètement irréprochable sur le plan acoustique, puisque bon, c'était pas du tout l'intérêt que je voulais mettre en place. Mais par contre, la forme des évents, les inclinaisons, on les a a calculés avec certains appareils et cette personne qui est intervenue, oui, aux trois quarts pratiquement du projet. Et donc la structure autoporteuse, elle a été modifiée sur la fin, mais en tout cas, le voile et et l'inclinaison de cet abat-son n'a pas changé. Alors après, pour le reste, je ne sais pas si tu étais là au moment où j'en ai parlé, mais pour le reste, les courbures des réflecteurs ont été réalisées de manière complètement empirique, c'est-à-dire que j'apportais mes calculs et on fabriquait des prototypes sur lesquels on modifiait au fur et à mesure les paramètres pour pouvoir faire qu'il y ait cette rumeur qui soit provoquée à distance, puisque du centre de la nef jusqu'aux coursives, on a à peu près 17 mètres, entre 13 et 17 mètres selon les endroits, qui produit cette espèce de distance assez, assez difficile à régler. Dans certaines zones sous les coursives, je ne sais pas si tu as pu t'en rendre compte, s'il y avait parfois il y avait des longues plages, on avait l'impression que les sons venaient des murs et pas du centre de la nef, puisque c'était ces ondes stationnaires qui se renvoyaient sur elles-mêmes. En fait, là aussi, je le redis, peut-être que tu n'étais pas là à ce moment-là aussi, l'inclinaison de la pente du toit joue à 25 degrés un effet miroir avec l'inclinaison des abat-sons pour créer cette espèce de tuyau de diffusion.
Est-ce que je ne connais pas votre travaux, mais est-ce que celui-ci est révélateur de votre démarche? C'est une démarche in situ avec les sons du lieu?
Alors, pour ce qui est des projets sonores, oui. Pour ce qui est des projets sonores, oui, mais pour le reste de mon travail, de manière sous-jacente, on peut dire que ça découle de ces fonctionnements-là, mais ça a davantage à voir un travail de parcours dans l'espace d'écriture, de la topographie et un travail de carte, plutôt de cartographie. Donc c'est davantage un travail visuel que sonore. Mais de toute façon, je dis bien que c'est sous-jacent de ces travaux. Mais oui, je pense que même si la forme finale n'est jamais véritablement la même, puisqu'elle est dédiée au projet sonore, elle concourt toujours de ce jeu de mise à distance, d'isolement. Oui. Pour le dire autrement, la plupart du temps, je mets en place des dispositifs d'installation et travaille pas sur des événements ou des diffusions en public, par exemple. Excuse-moi, dernière chose par rapport à ça, il y a, pour information, il me semble qu'il y a un catalogue de l'exposition que j'ai remis à la bibliothèque au début de l'été. Je crois que Jean-Paul l'a déposé à la bibliothèque, il me semble, pour ceux qui auraient besoin d'informations. Et dans le catalogue, d'ailleurs, un texte de Christophe Kim qui nous a... avec qui on a travaillé pendant à peu près un an, une année, puisque justement, il fallait faire cet effort sur la longueur pour mener à terme le projet. Merci.